Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, en Irak, le coup de force de la police anti-émeute qui, aujourd'hui, a repris aux contestataires les lieux de rassemblement. Pékin déploie sa toute-puissance et dit livrer bataille contre le coronavirus. Décryptage de Nabila Hamel. En France, le Conseil d'État et ses réserves émises à l'encontre de la réforme des retraites à la hâte. Voilà ce qui froisse les sages. Explications de Diane Berger. Bassora, Illa, Diwaniya, Kout, Amara, Nasiriyah, Bagdad, les places névralgiques de ces villes ont méthodiquement été ciblées par les forces de sécurité qui avaient pour mission de déloger durablement les manifestants anti-gouvernementaux de ces lieux de ralliement. 3 morts ce samedi en Irak. C'est un reportage de Lucille Wasserman à Bagdad.
La contestation se réduit comme peau de chagrin à Bagdad. Les forces de sécurité ont délogé ce samedi une grande partie des manifestants installés aux abords de la place Tahrir. Une intervention qui ne s'est pas déroulée sans violence. Selon des témoins sur place, les forces anti-émeutes ont tiré à balles réelles pour faire fuir les manifestants, avant de mettre à feu certaines tentes installées sur place depuis des semaines. Seule la place Tahrir, l'épicentre de la contestation, et une partie du pont de la République, qui mène directement à la zone verte, sont aujourd'hui toujours occupés par les manifestants. Cette intervention des forces de sécurité intervient alors que l'influent leader chiite Moqtada Sadr a annoncé retirer son soutien à la contestation. Quelques heures après avoir organisé un large rassemblement ce vendredi, réunissant des centaines de milliers d'Irakiens contre la présence américaine, le clerc chiite a jugé qu'il était trop critiqué dans les rangs des manifestants anti-pouvoir et qu'il ne protégerait plus par conséquent le mouvement. La plupart de ses partisans, nombreux sur la place Tahrir, ont alors immédiatement quitté la place et les autres lieux de la contestation, au risque de définitivement la condamner.
Vous verrez que le président n'a rien fait de mal, entré en matière de l'un des avocats de la Maison-Blanche devant les sénateurs au premier jour des plaidoiries de la défense dans le cadre de la procédure de destitution de Donald Trump. Son homologue chinois assure, lui, que son pays peut, je cite, « remporter la bataille ». Ainsi, Xi Jinping galvanise-t-il ses troupes à l'assaut du coronavirus qui, selon un dernier bilan, fait 41 morts, plus de 1200 cas recensés. Dépistage tous azimuts dans les trains, les bus, les avions. Le pouvoir montre qu'il a pris la mesure de la gravité de la situation. Bonsoir Nabila Hamel.
Bonsoir.
Nabila, le chef de l'État, lui affiche le sang-froid et la détermination d'un commandant en chef.
Oui, le ton est, disons, un peu plus martial qu'en début de semaine. Lundi, le président chinois appelait à enrayer résolument l'épidémie. Aujourd'hui, il parle d'une pneumonie virale qui a déjà fait, vous le disiez, 41 morts, qui s'accélère et qui place le pays dans une situation grave. Xi Jinping se met dans la posture du chef d'une puissance qui peut remporter la bataille contre le coronavirus. Le moment de son discours a été choisi, la montée en intensité de l'épidémie qui a déjà contaminé 1300 personnes. Comment ne pas non plus s'exprimer le jour du Nouvel An chinois, un jour sans grande festivité traditionnelle, défilés et rassemblements dans les grands parcs du pays, pour cause justement de coronavirus. Ces célébrations publiques ont été interdites, non seulement dans les deux villes en quarantaine, mais également dans la capitale Pékin, qui se trouve à plus d'un millier de kilomètres de Wuhan.
Alors c'est peut-être pour donner un peu plus de poids à toutes les autres mesures à prendre que Xi Jinping a décidé ce matin, Nabila, de renforcer la direction centralisée et unifiée du comité central. Comment, Nabila, le régime a-t-il renforcé aujourd'hui son dispositif ?
Bien, l'armée a envoyé ces dernières heures 450 médecins dans les zones en quarantaine. Certaines ont l'expérience de la lutte contre Ebola et le SRAS. Pékin a décidé également la construction ultra rapide, d'ici une dizaine de jours, d'un deuxième hôpital de 1000 lits à Wuhan, la ville épicentre de l'épidémie. Entre cette province et Hubei, ce sont au total 56 millions de personnes qui sont confinées sur le reste du territoire chinois. Les autorités ont annoncé la mise en place de mesures de dépistage. Les sites touristiques très courus, comme la Cité interdite et des sections de la Grande Muraille, ont été fermés. Et il est annoncé des contrôles systématiques dans les transports du nord au sud du pays. Dernière décision qui entrera en vigueur à compter de lundi. Les agences de voyage chinoises ne pourront plus vendre de réservations d'hôtels ni de séjours à des groupes. Enfin, enfin à signaler que l'alerte maximale a été décrétée à Hong Kong.
Merci à vous, Laura. Saisie à vous écouter que les autorités relèvent un redoutable défi, non sans efficacité, selon Arnaud Fontanet, directeur de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes de l'Institut Pasteur.
Les autorités chinoises se retrouvent confrontées à une crise sanitaire majeure, qui était donc le début de l'épidémie, que maintenant on date à début décembre, était relié à un marché d'une ville, Wuhan, où on vendait des animaux. Et assez rapidement, ils ont pu identifier une quarantaine de personnes qui étaient en contact avec ce marché. Les deux tiers d'entre elles étaient des vendeurs du marché, développaient ces pneumonies. Alors, ce sont des animaux vendus dans ces marchés. On pense plutôt à des mammifères, ça peut être des rongeurs. Et donc, c'est dans ce contexte-là que les premiers patients ont été identifiés. Les autorités chinoises et les scientifiques ont fait un travail absolument remarquable au niveau de, d'abord, l'identification de ce foyer anormal, parce que c'est quand même une ville de 11 millions de personnes, donc c'est pas facile de relier ces informations quand des gens viennent en période hivernale avec des symptômes respiratoires, pour ensuite isoler sur les prélèvements un nouveau virus, qui est quand même une découverte majeure qu'ils ont fait en 3 semaines, et mettre à la disposition de l'ensemble de la communauté scientifique et des autorités internationales la séquence de ce virus, qui nous permet aujourd'hui d'avoir un test diagnostique qui a pu être utilisé pour identifier les patients sur le sol français. Donc tout ça s'est très bien passé. La partie plus difficile a été sur la gestion même de l'épidémie, où pendant longtemps on a cru que c'était restreint autour de ce marché de Wuhan, et puis on s'est rendu compte assez vite, hein, dans la première semaine de janvier, surtout quand il y a eu des cas exportés en Thaïlande et au Japon, que l'épidémie avait une ampleur plus importante que ce que l'on entendait de la part des autorités chinoises. Maintenant, vous l'avez vu, l'épidémie s'est largement étendue, Wuhan, les villes voisines et au-delà, on parle de plus de 1000 patients, les modélisations mathématiques parlent de plusieurs milliers de patients, 4000 qui vont bientôt passer à plus, donc c'est un travail gigantesque à mener pour les services sanitaires chinois.
Voilà des propos recueillis par Bernard Thomasson, 3 cas répertoriés en France, un accueil médicalisé sera opérationnel demain à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, à l'arrivée des vols directs en provenance de Chine. Interpellés lundi dernier à Brest, 7 hommes ont été mis en examen aujourd'hui par un juge antiterroriste parisien pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Le Conseil national des barreaux vote à l'unanimité la poursuite de la grève contre la réforme des retraites, faute, je cite sa présidente, de nouvelles propositions de la part du gouvernement et Christiane Ferral-Schul, de rappeler que son organisation avait formulé des alertes que le Conseil d'État, dans l'avis sévère qu'il a dû rendre en un temps record, que le Conseil d'État, justement, n'oublie pas de verbaliser. Bonsoir, Diane Berger.
Bonsoir.
Diane, il y a les points sensibles relevés dans cette copie, mais ça reste une copie amère pour les sages.
Et dès sa publication hier soir, l'avis du Conseil d'État a réveillé les appels de l'opposition à retirer le projet de loi. Dans les faits, les sages ne condamnent pas le principe de la réforme, mais décrit Paul Cassia, professeur de droit public à l'université Panthéon-Sorbonne, le Conseil d'État explique surtout ne pas pouvoir examiner le texte correctement.
Le Conseil d'État considère que son analyse est incomplète parce que le projet renvoie à 29 ordonnances, c'est-à-dire des textes qui seront pris par le gouvernement sur la base des projets de loi, ultérieurement, dont on ne connaît pas encore le contenu. De sorte que l'architecture globale du projet ne peut pas être déterminée par le Conseil d'État. Il y a là matière à incertitude pour lui, qui rend difficile l'évaluation juridique du projet. Par ailleurs, le Conseil d'État a déploré qu'il n'y ait pas d'éléments financiers suffisants permettant d'établir avec un minimum de certitude que le nouveau système universel de retraite était financièrement soutenable.
Cependant, le juriste souligne qu'un avis aussi négatif n'est pas si exceptionnel de la part du Conseil d'État. En revanche, il met en avant, en creux, la précipitation du gouvernement.
Il a été trop vite en soumettant une étude d'impact incomplète et en laissant au Conseil d'État un délai trop bref pour se prononcer. Donc il y a bien une forme d'impréparation, d'autant plus que le projet de loi a été modifié à de très nombreuses reprises entre le moment où le Conseil d'État a été saisi le 3 janvier et le moment où le Conseil d'État a rendu son avis le 23 janvier. Donc de ce point de vue-là, s'agissant d'un texte qui a une importance considérable pour les dizaines d'années à venir, le Conseil d'État a déploré l'impréparation du gouvernement et sa précipitation.
Le texte présenté par le gouvernement a été mal préparé, donc selon les sages, il présente des zones de flou, l'étude d'impact est insuffisante. Mais Paul Cassia rappelle que pour autant, l'avis du Conseil d'État ne rend pas le projet de réforme contraire à la Constitution et aux lois.
Merci à vous Diane Berger. Quelques mots de la météo de demain. Pluie passagèrement soutenue et orageuse sur le Languedoc et la basse vallée du Rhône en matinée. Il neigera à partir de 1400 mètres sur les Cévennes le matin, à partir de 1200 mètres sur les Alpes l'après-midi. Sur le reste du pays, matinée très nuageuse en général. Encore des grisailles et des bancs de brouillard sur le nord et le nord-est. Ce journal a été préparé avec Caroline Beneteau à la technique Inès de Bruyne.